France Culture, Christine Bernard.
Une histoire particulière. C'est l'histoire de l'escamoteur, un tableau du peintre Hieronymus Bosch. Il représente une grande planche de bois posée sur des tréteaux où des tours de passe-passe se déroulent sous les regards nombreux des badauds qui s'attroupent. Le bateleur tient dans sa main droite une boule qu'il fait apparaître et disparaître sous les cônes posés devant lui sur la table. Face à lui, un grand benêt, courbé en deux, semble hypnotisé par le jeu. Un voleur, caché dans la foule, profite de sa crédulité pour lui dérober sa bourse. Ce tableau, enfermé et caché au musée municipal de Saint-Germain-en-Laye, représente tout simplement un larcin pendant une partie de bonneteau. La suite de l'histoire, c'est maintenant. Mais juste avant, permettez-moi de vous souhaiter, au nom de toute l'équipe d'Une Histoire Particulière, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
L'escamoteur escamoté. Michel Pomarède, François Test.
Bonsoir. Première édition de Soir 3 à 19h20, l'actualité dans votre région, mais tout de suite la page nationale et internationale de cette édition. Avec d'abord les mesures adoptées au Conseil des ministres pour résorber le déficit de la sécurité sociale. Un déficit qui s'élèvera l'année prochaine, vous le savez, à
13 décembre 1978, Geneviève Guichenet, Soir 3, nous parle du déficit de la sécurité sociale, mais pas de ce qui se passe quelque part dans l'Ouest parisien.
Le 13 décembre 1978, musée de Saint-Germain-en-Laye, l'escamoteur est escamoté, c'est en tout cas le titre de la presse de l'époque. Agnès Virol, qu'est-ce qui se passe ce jour-là au musée de Saint-Germain-en-Laye?
Alors, à ce moment-là, le tableau était donc présenté dans un des bâtiments de la ville et deux personnes arrivent, se précipitent dans le bâtiment, montent l'escalier, puisque le musée était situé au premier étage, trouvent le gardien qui était un monsieur d'un certain âge et lui lance une bombe lacrymogène, se précipite sur le tableau, le décroche, partent avec.
Et les individus en question donc ont pris la fuite à bord d'une CX dont le numéro n'a pas pu être relevé.
Ouais. Alain Tour, vous êtes responsable de l'APJ de Versailles.
Oui.
En décembre 78.
Oui.
Qui vous informe du vol de l'escamoteur au musée de Saint-Germain-en-Laye?
Nous sommes informés par le commissariat local de Saint-Germain-en-Laye. Et quelques semaines plus tard, un de mes collègues, donc le chef de l'office, me téléphone en me disant « Ben voilà, on vient d'avoir un renseignement ». Selon lequel une équipe susceptible d'appartenir à un mouvement autonome voudrait négocier un tableau de grande valeur. Et on a pensé bien entendu à l'escamoteur.
D'où grand émoi, bien entendu, une enquête a lieu.
On a quand même des planches photographiques qui vont nous permettre effectivement de reconnaître notamment Jean-Marc Rouillant en particulier. Et que nous repérerons d'ailleurs sur les lieux de la négociation qui interviendra plus tard à l'hôtel Nico.
Il est accompagné aussi d'un fils de commissaire, si je ne m'abuse.
C'est cela, oui.
Il y a eu, à ma connaissance, donc, des échanges entre la police, donc Interpol, et les ravisseurs, qui souhaitaient obtenir en échange de ce tableau une rançon.
Vous, Aurélien Gomboni, vous avez rencontré Jean-Marc Rouillant, vous l'avez interrogé. Quelles étaient ses motivations pour un jour, avec son acolyte, rentrer dans le musée de Saint-Germain-en-Laye et subtiliser, escamoter l'escamoteur?
Alors, justement, avant d'aller rencontrer Jean-Marc Rouillant, j'avoue que j'avais beaucoup d'attentes à ce sujet, parce que comme le tableau avait eu une fortune assez intéressante, il avait été repris plein de fois, il y avait des satires politiques qui avaient été faits juste après 1968, ou un autre, justement, satire politique qui met en scène la création de la monnaie européenne, enfin, c'est assez incroyable, et il y avait cette espèce de charge, un peu politique, si on veut, qui peut y avoir, en tout cas, dans cette scène. Et en allant le voir, je me suis dit, bon, est-ce que c'était aussi une espèce de geste politique? C'était quand même avant les moments d'action directe, c'est un peu dans les débuts de leur dans leurs activités. Moi, c'est un peu les attentes que j'avais et je me suis fait largement décevoir de ce point de vue-là. Dans le sens, voilà, Rouillant et ses camarades ont volé ce tableau pour se faire de l'argent, pour avoir des armes, etc., pour financer leur lutte. Et donc, c'était purement intéressé.
Alors, Aurélien Gamboni, vous rencontrez Jean-Marc Rouillant. Verbatim de votre rencontre, qu'est-ce qu'il vous dit dans le repérage du tableau et dans le vol?
Donc il dit voilà qu'il est allé visiter le musée et il était avec Nathalie Ménigon, donc c'est aussi une membre d'Action Directe. Il dit voilà, c'est une scène qui m'est restée en mémoire.
Je m'en rappelle parfaitement parce que le gardien de musée était un invalide, il avait une jambe en bois, un pilon, et que tout le musée c'était en plancher, ses pas résonnaient sur le sol en claudiquant. Il essayait de nous suivre. On est arrivé, on était deux visiteurs, il essayait de nous suivre. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que Nathalie est partie d'un côté et moi de l'autre, à la recherche du tableau. Et le gardien ne savait pas qui suivre, il allait de l'un à l'autre.
Donc, c'est incroyable. Ils étaient en train vraiment de jouer au passe-muscade avec lui dans l'espace. Et ensuite, il tombe sur le tableau. Et là, il me dit...
Dans un recoin, je t'assure que c'était un recoin sombre, je découvre le tableau. C'était très bizarre parce que l'impact de le trouver, je ne sais pas, ça m'a fait siffler l'oreille. Une sensation physique devant ce tableau. C'est un tableau très, très impressionnant. Assez grand, avec une intensité de couleur. Je me souviens d'une couleur bleue métallisée. Je ne sais même pas si elle existe dans le tableau. Ça m'a laissé cette impression de bleu très, très intense. Le tableau est vraiment un tableau extraordinaire.
Description, la plus précise possible.
Bah, avant tout, je vais vous dire que c'est un tableau que j'avais produit à l'audience, pas l'original. L'idée, c'était de montrer qu'on n'était pas sur une pratique nouvelle. Alors, ça s'appelle l'escamoteur. Maintenant, on dit joueur de bonneteau, mais il s'agit toujours de la même chose. Vous avez l'idée principale, qui est quand même que le public est parfaitement intéressé, voire... hypnotisé par ce que fait le manipulateur, c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant, le maître de jeu qui est le manipulateur. Vous avez le parieur, bien sûr, qui n'en revient pas, qui n'en croit pas ses yeux, qui est étonné d'avoir une fois de plus perdu, et en profite évidemment un certain nombre de personnes pour le détrousser. Ça part un petit peu de l'idée qu'il y a une complicité entre le maître du jeu et les voleurs.
Pourquoi dérober le tableau? C'était très simple. C'était le négocier, d'abord obtenir de l'argent, et avec cet argent, acheter des armes. Parce qu'il faut dire quand même qu'à l'époque, on est au début, si vous voulez, des manifestations, des premières manifestations violentes des mouvements autonomes, d'ailleurs de ce mouvement-là, qui en fait est une fusion entre les NAPAP et les GARI, c'est-à-dire les groupes autonomes internationalistes, et les NAPAP, les noyaux armés pour l'autonomie populaire, qui deviendront donc Action Directe et seront non célèbres par la suite, par des actions particulièrement violentes, voire des assassinats en particulier de policiers, comme dans l'avenue Trudaine en particulier.
Quelle était la somme réclamée par Jean-Marc Rouillant et son complice pour rendre l'escamoteur?
Alors au départ, c'était 6 millions de francs de l'époque et puis finalement, c'est tombé à 2 millions et demi.
Après, une fois qu'on avait le tableau, on a eu beaucoup de discussions sur la question de la négociation ou de la vente parce qu'en tant que communiste, on a tendance à vouloir mettre la culture à portée de tous. C'est notre projet d'avoir une autre forme de culture et de la rendre disponible. Donc on a eu des discussions théoriques très poussées. D'autant plus que le tableau impressionne beaucoup. Il a impressionné tous les gens qui l'ont vu chez nous. Il n'y avait pas une personne qui était indifférente. Il dit même, si ça avait été un Vasarely ou un truc de ce type-là, ça n'aurait pas posé de problème. Même un Picasso de la période cubiste, où il en a fait des centaines. Mais là, quand même, c'est autre chose. Et savoir que ça pouvait se retrouver dans le sous-sol d'un émir au Koweït et ne plus en sortir, ça nous avait posé énormément de problèmes. Il y a eu des très grosses discussions là-dessus. Et finalement, les enjeux étant importants, on a décidé de maintenir le projet d'échange.
Donc ce que ça veut dire, c'est qu'ils ont décidé de l'échanger
contre l'argent.
Avec, contre l'argent, mais avec la police. C'est-à-dire, plutôt que de privilégier ces filières privées qui étaient beaucoup plus sûres pour eux et qui leur garantissaient voilà, de pouvoir avoir cet argent, ils ont décidé de négocier avec, avec les autorités. Voilà. Et tout le fait qu'ils se sont fait tendre un piège.
Et donc, on s'est introduit en quelque sorte, on a accepté, hein, on a monté un piège, si je puis dire, pour s'introduire dans la négociation.
Alors Robert Pépin, imaginons que Harry Bosch, le détective de Michael Connelly, enquête dans ce service des affaires réservées sur cette histoire de escamoteur. Comment est-ce qu'il s'y prendrait ?
Il n'y a pas des traces sur le mur ? Il n'y a pas des empreintes ? On dit action directe, et alors il va chercher pour savoir qui c'est ce gus-là.
AD, action directe. Cette étoile rouge à cinq branches apparaît pour la première fois en 79, attentat contre le ministère du Travail à Paris. C'est le temps des cibles symboliques, banques, ambassades, sociétés internationales. Action directe. Si le groupe a choisi ce nom, c'est parce que dans sa première période, son but est d'agir en dehors des partis et des syndicats.
Il va aussi vouloir savoir s'ils veulent le vendre, qu'est-ce qu'ils veulent en faire. À partir du moment où il aura une piste, il la lâchera pas, pour des raisons politiques ou autres. Ça, c'est pas son problème. Surtout si derrière, il sent que peut-être il y a eu crime. Est-ce que, par exemple, je sais pas, mais à Saint-Germain, il va interroger le gardien pour savoir comment ça s'est passé. Est-ce qu'il était là, pas là? Est-ce qu'il y avait des caméras de surveillance, etc., etc. Toutes choses que feront n'importe quel flic français.
La négociation va intervenir à l'hôtel Nico, donc quai de Grenelle, en bord de Seine.
Donc Jean-Marc Rouillant et Éric Moreau ressortent de l'hôtel, prennent une voiture et vous les suivez jusqu'à la rue Scribe.
Ils prennent une voiture et on les suit, effectivement, on les suit jusqu'à la rue Scribe. Et on n'a pas besoin d'ailleurs de montrer la somme d'argent, que nous avons quand même, malgré tout. Hein. Et à ce moment-là, donc, on a décidé de les interpeller. Donc, Éric Moreau a été interpellé dans la 304. On retrouve à rouler dans des couvertures le tableau l'escamoteur. Rouillant, lui, a réussi à prendre la fuite.
Le tableau devait s'échanger en pleine rue. Et l'argent aussi, d'ailleurs, en pleine rue, en plein centre de Paris, dans le quartier Opéra. Et c'est ce qui a permis la fuite de certains d'entre nous. Après deux ou trois carambolages, on a réussi à s'enfuir. Une autre version est sortie dans un livre assez récent, Hergé, la traque d'action directe de Serge Savoie, où il dit qu'il nous aurait laissé fuir, ce qui est absolument faux, parce qu'on a tapé vraiment sérieux pour partir.
C'est une histoire de film, hein. Je veux dire, c'est presque étonnant qu'il n'y ait pas eu un film. Enfin, oui, on comprend pourquoi il n'y a pas eu de film sur ça. À cause de la suite, évidemment.
Evran Boz, 1991, vous réalisez un court-métrage de 13 minutes intitulé « L'escamoteur ». Dans ce court-métrage, qui gobe quoi ?
Ben, moi, j'étais fascinée par ce tableau parce qu'il y avait beaucoup, en fait, de choses liées au regard qu'il fallait mettre. J'ai fait une petite séquence qui était liée à ça, qui était sur...
Où l'escamoteur ouvre la bouche et qu'est-ce qu'on voit ?
Un œil.
Alors, il tient un œil ou une hostie ?
Ah, l'hostie, c'est pas mal, oui. Très bien, l'hostie.
Mais je posais la question, qui gobe quoi ? Votre voleur ?
Le voleur, quand je me suis renseignée sur son habit de moine et que j'ai donc découvert qu'il appartenait à l'église, j'étais assez étonnée parce que pour moi, il était complice du magicien. Complice du pouvoir. Disons, là, il y a le pouvoir, là, il n'y a pas le pouvoir.
c'est comme un boys and girls, it's time for fun, it's time for money. Alors, qui c'est qui veut gagner? Le petit jeu est très facile, le petit jeu c'est 50 euros. Allez, mesdames, messieurs, c'est le moment de gagner 50 euros. La petite boule sous le gobelet, attention, c'est parti. Tu me dis vite, 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 où est la petite boule? Allez, bravo, t'as perdu fil les 50 euros, allez, t'as bien joué. Tu peux refaire une deuxième fois, je te donne une deuxième chance. Non, tu veux pas aller, qui veut jouer là? Les filles aussi, elles peuvent jouer.
Maître Fabrice Elewa, vous vous intéressez à la peinture? Mais votre profession, c'est avocat, et vous avez mentionné que vous avez produit une reproduction, une image de ce tableau à l'audience. Quelle audience? Racontez-moi.
Alors, il s'agit d'audience. J'ai un certain nombre de clients qui sont des personnes qui jouent au bonneto dans les endroits touristiques, du côté de la Tour Eiffel, du côté du Sacré-Cœur. Ils jouent au bonneto et la plupart du temps, ils jouent au bonneto avec des touristes. Et ces personnes se font interpeller. Et donc, ont eu besoin de mes services, parce qu'ils se font interpeller sur le motif d'escroquerie, voire même d'escroquerie en bande organisée.
Parce que pour jouer au bonneto, Maître Elewa, il faut un manipulateur, ce que vous dites, un maître de cérémonie, mais il faut des barons, il faut des complices.
Le fait qu'il y ait des faux joueurs, parce qu'il y a des faux joueurs autour de la table, et c'est ça qui pose problème, le fait qu'il y ait des faux joueurs, moi je dis, je soutiens qu'il s'agit un petit peu de faire de la publicité.
C'est pas eux qui mettent la pression sur le touriste, le bonnet qui va se faire gober.
Moi, je vois plutôt une personne attirée par l'appât du gain et qui n'hésite pas à essayer de prendre 50 euros à quelqu'un qui joue dans la rue.
Donc, Maître Elewa, dans votre plaidoirie, vous avez fait vous-même un jeu de bonneto, c'est-à-dire que l'appât du gain, c'est du côté du joueur et c'est plus du côté de celui qui manipule.
Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une victime et doit-elle être protégée? Moi, je dis simplement qu'il ne s'agit pas d'une escroquerie. Pourquoi? Soit le manipulateur est en fait un tricheur et donc il n'y a aucune bille sous les gobelets. Là, dans ce cas-là, ce serait une triche. Le fait est que ça n'a jamais pu être démontré sur l'étape de bonneto parce qu'ils n'ont pas besoin de tricher.
Donc, c'est-à-dire que la dextérité du manipulateur, de celui qui initie le jeu de bonneto, ce n'est pas une escroquerie.
Non, sa dextérité, c'est simplement qu'il va perdre le joueur qui ne va plus réussir à suivre la bille. Mais la bille est toujours là.
Jean-Marc Rouillant s'enfuit.
Alors, Jean-Marc Rouillant, lui, y parvient à s'enfuir, absolument. Et du coup, il va jamais être vraiment inquiété sur ça, parce que évidemment, quand ils vont se faire juger, c'est pour des choses nettement plus graves. Par contre, le fils de commissaire, lui, va faire quelques mois de prison, apparemment, pour cette histoire.
Aurélien Gambodi, vous avez parlé avec Jean-Marc Rouillant, c'était il y a combien de temps?
C'était en 2012, si je ne me trompe pas.
Donc il est sorti en liberté conditionnelle.
Exactement. Et ensuite, il est retourné, je crois, enfin bref.
Oui, il avait dit des choses qu'il n'aurait pas dû dire en étant en liberté conditionnelle, ce qui lui a valu de retourner en prison.
Voilà, en gros, il peut parler de cette histoire de tableau, parce que ça n'est pas très... Enfin, voilà. Ça, il peut en parler. Le reste, pas trop. Donc, moi, je l'avais rencontré justement à ce moment-là. Et bon, moi, j'avais cet angle très particulier avec la recherche. Je venais pas lui parler d'Action Directe, je venais essayer de comprendre pourquoi ils avaient volé ce tableau. Mais ce qui était quand même intéressant peut-être, c'était que ça faisait revenir à ce moment justement d'avant l'irréparable, on pourrait dire d'une certaine manière.
Vous l'avez vu ce tableau, Alain Tour?
Mais bien sûr que je l'ai vu, puisque je l'ai même, au cours d'une soirée, je l'ai ramené à la maison et je l'ai placé au pied de mon lit. Moi qui aime beaucoup en plus les tableaux flamands, c'est la première fois que j'en avais un à disposition d'aussi près, si je puis dire. Donc j'ai passé une nuit avec l'escamoteur avant de le restituer le lendemain matin au musée de Saint-Germain-en-Laye.
Mais est-ce que c'est vraiment conforme au code de procédure pénale, ça, Alain Tour, un commissaire de police qui subtilise au milieu d'une enquête l'objet d'un larcin et qui le garde au pied de son lit?
Écoutez, je vous en laisse l'appréciation.
Chance. Je suis gentil, regarde, je refais. La petite boule est ici, t'es prête, Caroline, attention, c'est
elle est là.
Dis-moi, allez, encore perdu.
Lâche-moi!
Il avait le noir et la moustache arrogant. Il parlait drôlement, mais d'une façon éloquente, bombant le torse devant les spectateurs. Mais sa renommée tenait pourtant du prodige, et ça se comprenait qu'il ait autant de prestige. Puisque c'était un prestidigitateur, rien dans les mains, rien dans les poches, il transformait un air vainqueur. L'as de carreau en sept cœurs, sans faire d'erreur, sans un écroche.
Que dit la loi ?
Alors, la loi a dit deux choses. La loi a dit que quand il y a une escroquerie, il faut condamner. On peut même aller jusqu'à 5 ans de prison. Comme ils sont plusieurs, on peut mettre même ça en bande organisée. Ça doit être 10 ans, je sais plus. Enfin, importe peu. Ce sont des maxima, bien entendu. Mais en tout cas, la loi dit qu'il faut punir l'escroquerie. Mais lorsqu'il est démontré qu'il n'y a pas cette escroquerie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de triche, ou alors que le parquet, les policiers, la victime ne peuvent pas démontrer qu'il y a de triche, le législateur a créé une infraction spécifique. Parce que justement, l'escroquerie ne suffisait pas à pouvoir arrêter ces jeux de bonneteau sur la voie publique. Il s'agit d'un article du Code de la sécurité intérieure. Faites gaffe. Code de la sécurité intérieure. Espionnage, voilà, tout ça. Hein. Et mes petits Roumains qui jouent au bonneteau tombent sous le coup de cet article du Code de la sécurité intérieure qui nous dit qu'en fait, doit être réprimé le jeu de hasard sur la voie publique dont l'enjeu est l'argent sans autorisation. Et c'est parce qu'il n'y a pas d'autorisation que c'est réprimé. Pourquoi ? Parce que l'État s'en fiche complètement que les types se fassent plumer au jeu. Je vous rappelle que l'État se gave avec la Française des Jeux, avec les taxes sur les casinos. Tout ça, il n'y a absolument aucun problème que des gogos se fassent dépouiller. Parce qu'ils prélèvent sa dîme. Tandis que mes Roumains qui jouent au bonneteau n'ont pas d'autorisation et donc ne reversent pas à l'État. Et c'est pour ça que l'État poursuit.
Est-ce que le clou de votre plaidoirie, Maître Eloi, c'est la production de cette reproduction de l'escamoteur de Bosch pour convaincre le juge ?
Alors, pour convaincre, non. Parce que l'idée de la production de ce tableau, c'est de dire qu'il s'agit d'un phénomène connu et que depuis toujours, on associe le joueur de bonneteau, l'escamoteur en l'occurrence, à autre chose. Là, on l'associe au vol, on l'associe à la ruse, on l'associe à la malhonnêteté. On veut lui faire un costume plus grand que ce qu'il n'est lui-même.
Mais est-ce que c'est un magicien ? C'est un artiste ? Le joueur de bonneteau ?
Oui. Oui, oui, c'est un artiste.
Et voilà, disait-il fièrement, et voilà un billet de 1000 francs, et voilà disparu complètement. Tout le monde en restait comme de ronds-plans.
Est-ce que l'escamoteur, c'est le portrait de l'artiste ?
Ben, il y a plusieurs manières de le voir. Franchement, si on regarde toute la littérature, ça part dans tous les sens. Il y en a qui vont dire, oui, alors c'est une image diabolique, parce qu'à l'époque, les saltimbanques, etc., etc. Alors, c'est possible. Moi, je ne suis pas forcément bien placé pour parler de ça. Ce qui me semble quand même impossible à pas considérer, c'est le plaisir et le jeu qu'il y a là-dedans. Et le plaisir qu'a le peintre à produire une représentation aussi astucieuse, qui quand même l'assimile à cette posture du magicien qui fait son tour. C'est impossible qu'il y ait uniquement, pour moi, une diabolisation de cette figure, parce que cette analogie, elle est très forte. Il nous met du côté du public, il se met du côté de l'escamoteur, et il nous met en garde. Et la question qu'on doit se poser, mais pas seulement pour l'époque, mais aujourd'hui, maintenant, et en permanence, et toute personne qui regarde ce tableau, c'est à quoi est-ce qu'on doit être rendu attentif, en fait ? Quels sont les dispositifs qui manipulent notre attention ? Et comment s'en prémunir, d'une certaine manière ?
Qu'est-ce que vous pensez du destin d'un tableau qui raconte une critique sociale, un jeu de dupes, la religion qui dupe les gens, un voleur, et ce tableau est lui-même volé.
Je trouve ça magnifique. Je trouve ça extraordinaire, parce que c'est la continuité de cette œuvre-là. C'est superbe, d'autant plus que Rouillan est allé en prison après. Donc il a connu ce mur-là, qui est le mur de la prison. Puisque de l'autre côté, il y a le mur de la ville de Jérôme Bosch, hein, puisque... moi, je me suis posé, quand je travaillais dessus, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Et l'extérieur, comme Jérôme Bosch, il utilise sa ville, puisqu'on sait que Jérôme Bosch n'est jamais sorti de sa ville, sauf une seule fois, mais autrement jamais. Donc, il utilisait sa ville dans tous les arrière-plans de tous ses tableaux. Quand il fait Patmos, Saint-Jean à Patmos, l'arrière-plan... C'est pas Patmos, c'est sa ville. Donc moi, j'ai pris sa ville et j'ai fait des extérieurs de sa ville. Mais ça m'a étonnée parce que je me suis posé la question de pourquoi il avait mis un mur. Parce qu'il aurait pu faire une place de village, hein, puisque comme il a fait beaucoup de peintures de genre. J'ai pas trouvé la réponse.
C'est pour les effets spéciaux ?
Peut-être. Peut-être.
Ce mur neutre est très très curieux. Et effectivement, il y a ce contraste de l'ombre et de la lumière qui se reflète beaucoup sur les vêtements d'ailleurs. Hein. Sur la gauche, on voit il y a un certain travail du drapé, il y a un travail des glacis qui crée le volume des drapés. Et notamment aussi sur le sol n'est pas du tout uniforme. Il y a ce contraste de l'ombre et de la lumière.
Quelle a été la conséquence de ce vol de l'escamoteur en décembre 78 et après qu'on l'ait retrouvé en 79 pour le musée de Saint-Germain-en-Laye, les Esvirolles ?
Il s'est avéré que les conditions de sécurité ne paraissaient pas suffisantes. Et la question s'est posée au sein du conseil municipal de savoir s'il était préférable de protéger cette œuvre, quitte à la présenter de manière temporaire à des grandes occasions et de manière sécurisée. Le choix qui a été effectué a été donc de fermer le musée et de présenter cette œuvre donc à des occasions exceptionnelles.
Donc le musée, depuis lors, est définitivement fermé. Alors, et comme on l'a vu, l'escamoteur sort de manière exceptionnelle de son coffre pour des voyages et des accrochages comme aujourd'hui.
Voilà.
Dernière question, Agnès Virol, quelle est l'émotion que vous ressentez quand vous faites face à l'escamoteur ? Est-ce que vous avez la surprise de l'enfant ? Est-ce que vous avez ce jeu de compréhension maintenant que vous avez circulé dans son œuvre ? C'est quoi l'émotion que vous ressentez face à ce tableau ?
L'émotion, c'est ce jeu... C'est d'abord la foule qui regarde cette scène, qui est interpellée. Et puis aussi, c'est la fascination du public qui rit, qui s'amuse, qui passe un vrai moment de détente, qui ne se lasse pas devant cette œuvre et qui pose beaucoup de questions, vraiment, qui cherche à aller au plus profond de cette œuvre.
Donc c'est un miroir ce tableau, puisque
oui,
les gens à Saint-Germain-en-Laye vont faire face comme les badauds du tableau.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait.
L'escamoteur escamoté avec Agnès Virol, conservatrice au musée de Saint-Germain-en-Laye. Olivia Savatier, conservatrice au département des arts graphiques du Louvre. La vidéaste Ève Rambose, Frédéric Helsig, spécialiste du peintre Jérôme Bosch, l'artiste Aurélien Gobony, l'avocat Fabrice Eloi, Alain Tour, ancien directeur de la PJ de Versailles, et Robert Pépin, traducteur des polars de Michael Connelly chez Calman Levy. Une histoire particulière. Coordination Christine Bernard, prise de son Laurent Lucas, Yves Lehors et Pierre Monteil. Réalisation François Test, un documentaire de Michel Pomarède.
Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30. Nous irons en Ariège. Mais c'est une autre histoire.